Voilà, alors comme a fait Claude Simon, mais pour faire un peu de nouveau le tour de la question et sans ressasser, même si on a le droit de ressasser avec Claude Simon, on en reparlera. À mes côtés, Dominique Viard, qui est, plusieurs fois il participe au banquet, mais enfin, qui est membre de l'Institut universitaire de France, qui enseigne la littérature moderne et contemporaine dans le cadre de l'université. Jean-Paul Bou, à votre gauche, à ma droite, et Eugène et Nicole, qui sont tous les deux ici en attendant, en tant qu'écrivain, en tant que se confrontant à l'écriture littéraire, mais qui ont continué à enseigner également la littérature française à l'université. Voilà. Alors, que m'a fait Claude Simon? Le verbe faire, qui chez Claude Simon n'est pas un verbe faible, mais un verbe au contraire fort dans ce qu'il signifie. Ce verbe faire, pour Claude Simon, c'est un verbe agissant. Écrire, c'est faire, dit-il. Voilà, du coup, discours de Stockholm, notre conférence. Écrire, c'est faire, dans le sens d'une confrontation avec les mots qu'il considérait lui-même comme une matière. Exactement comme le peintre travaille une matière à la couleur, Claude Simon travaillait les mots. Ce verbe faire qui met en lumière ce qui est en œuvre, ce qui est en mouvement. Dans l'écriture de Claude Simon. Ce mouvement, que je serais personnellement bien en peine de nommer, me fait penser à une rivière souterraine qui se dérobe à la vue au lieu de sa naissance, mais qui réapparaît, pour ne réapparaître ensuite que plus tard, et beaucoup plus loin. Alors Dominique Viard l'avait souligné dès sa communication inaugurale de samedi après-midi, on ne peut pas encore totalement prendre la mesure de ce que les textes de Claude Simon mettent en œuvre en tant que force agissante dans la littérature contemporaine. On en a bien sûr déjà une idée, et nous allons parler, on devine où cela va, où cela pourrait aller, mais ce travail est à l'œuvre, toujours à l'œuvre. Et c'est bien ce dont on a parlé tout au long de ce banquet, comme l'avait annoncé Dominique Bonnier au tout début, c'était bien le Claude Simon vivant dont nous voulions parler, ce Claude Simon vivant qui nous occupe et auquel nous sommes tous, pour des raisons diverses et variées, très attachés. Alors la rivière souterraine continue à rouler ses galets, elle ressasse. Ça, cette rivière dans le sens qu'encore Dominique Viard a donné au cours de sa communication, ressasser dans le sens de passer au tamis, afin que ce qui nous traverse, ce qui vient à nous, soit l'essentiel, lavé de toutes les aspérités et autres bavardages. Pour dire ce travail sous-jacent qui est à l'œuvre, je voudrais vous lire une phrase d'un livre de Jean-Paul Bou, un magnifique livre que je vous recommande à la lecture, qui s'intitule Lombardie. Alors bien sûr, il n'est absolument pas question de faire le moindre parallèle entre le personnage de ce roman, qui s'appelle Carolé, et qui est un massif professeur d'architecture, qui s'est entouré de quelques étudiants, donc pas du tout de parallèle entre les deux. Mais par contre, ce qui est dit là, dans la phrase que je vais vous lire maintenant, témoigne, je crois, de la présence discrète, sinon secrète, de Claude Simon dans la littérature, et qui continue à se faire, la littérature qui continue à se faire après lui, qu'il a rendu possible après lui, mais surtout, je crois qu'il continue à se faire dedans et avec lui. Alors, voilà la phrase. Nous pouvions bien nous dire naïvement qu'il avait cessé de nous faire peur. Nous ne comprenions pas encore que nous avions enfin trouvé ce qui nous avait manqué jusque-là. Mais trouver n'est pas le mot, puisque nous ne l'avions pas cherché, Carolé, puisqu'il nous est ainsi venu gratuitement. Comme on le dit, des choses bonnes qui tombent du ciel, ou des rencontres, lorsqu'elles sont amoureuses. Ce qui nous avait manqué jusque-là, non pas une épaule pour y pernicher, la complaisance des effusions, les suaves acquiescements aux épanchements, une attention intéressée et spontanée est déjà sa réciproque, les mélisses du sentiment à cause de quoi l'on marche en soi-même, aussi bien que dans les sables mouvants, mais une présence, immobile et agissante. Une stabilité de masse équilibrée et une vigueur irradiante, comme un bel arbre qui se tient là, dans son monde, impartageable et distinct, et qui vous tire à lui, de loin, par la seule puissance de son emprise, qui vous transmet sa force sans dissiper la sienne, et qui vous redresse et vous met d'aplomb quand vous êtes auprès de lui, sans même vous y appuyer. Jean-Paul Bou, vous aviez dit la parole, donc je vais vous la laisser. Parce que vous allez sûrement nous dire ce qui, avec Claude Simon, vous n'est pas long.
Si vous m'entendez pas, vous pouvez vous m'aviez dit que c'était à moi de commencer, donc je me suis dit que j'allais être muet et physique. J'ai pensé vous Vous avez quand même une réponse à votre question. Pour Kismel, décrire. Comment situer la place singulière d'un intercesseur privilégié qui évoquait Grac, Proust, Simon, hier. Je voudrais vous lire deux citations très courtes de Flaubert dans sa correspondance. Comme on se sent petit, nos yeux, comme on se sent petit. Et puis Proust, là c'est un tout petit peu plus long, c'est tiré des journées de lecture. Et c'est là en effet un des grands et merveilleux caractères des beaux livres qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle. Que pour l'auteur, il pourrait s'appeler conclusion, et pour le lecteur, incitation. Nous sentons très bien que notre sagesse commence au sel de l'auteur fini, et nous voudrions qu'il nous donne des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Et ces désirs, il ne peut laisser désirer en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre. Mais par une loi singulière, d'ailleurs providentielle, de l'optique des esprits, loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne, et que nous devons la créer nous-mêmes, ce qui est le terme de leur sagesse ne nous apparaît que comme le commencement de la nôtre, en sorte que c'est au moment où ils nous ont tout dit de ce qu'ils pouvaient nous dire qu'ils font naître en nous le sentiment qu'ils ne nous ont encore rien dit. Voilà, j'ai rien à dire de plus.
Sur ce travail dont vous avez déjà parlé, Dominique, vous pouvez rajouter un petit peu ce qui est agissant chez Simon, et surtout ce qui est agissant chez
vous. Oui, c'est difficile d'ajouter des mots après ce que vient de vous dire Jean-Paul. On se sent d'un seul coup presque trivial de prendre la parole comme ça. Non, la première expérience de lecture chez Claude Simon, c'était quelque chose de très 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 troublant, mais je recoupe là encore des choses que Jean-Paul a dit hier. Comme la découverte d'un nouveau mode de lecture, en fait, où en entrant dans le livre, les deux premiers que j'ai lus, c'était l'histoire à la Route des Flandres, le sentiment de ne pas comprendre ce qui s'y passait, mais de savoir qu'il s'y passait quelque chose. Et du coup, d'abandonner dans ces, je sais pas, week-ends pseudo-thérapeutiques où on essaye d'aller se détendre, on vous apprend à lâcher prise. Mais d'une certaine façon, c'était ça. C'est-à-dire que avant, je lisais en mobilisant des efforts pour comprendre, et puis en représentant les choses qui étaient décrites, éventuellement en identifiant un personnage, en faisant la lecture d'enfance. Et là, il s'agissait brusquement d'abandonner tout ça, et de se laisser porter par la phrase, en attendant que les choses se décantent peu à peu. Réclame aussi certainement une nouvelle lecture où on découvre des choses supplémentaires. Et il y a quelque chose d'inépuisable dans l'œuvre de Simon. Voilà, cette expérience a été à la fois très troublante, et alors, contrairement à ce que disait la première citation de Jean-Paul, c'était pas le sentiment de se sentir tout petit, mais c'est au contraire le sentiment de se sentir exalté, là, comme enrichi, comme de nouvelles dimensions, jusque-là inaperçues, qui s'ouvrent, qui se révèlent. Enfin, et tout ça complètement confus, enfin. Possible à rendre intelligible comme ça immédiatement. Donc, avec ce sentiment, finalement, les choses se passaient en moi sans que je sache exactement ce qui s'y passait. J'avais dit une fois à un journaliste qui m'interrogeait comme ça que ça m'avait appris à lire de manière viscérale, avant que les choses montent au cerveau, et non pas simplement de manière intellectuelle et élucidante. Et c'était dans le magazine littéraire, et le journaliste a traduit ça de façon un peu bizarre, donc je lisais avec mon estomac, et mes collègues universitaires se sont beaucoup gossés de l'histoire. mais oui, je pense quand même qu'il faut lire aussi avec les autres, comment dire, dimensions, parties de son corps. Et puis, ça m'a relié une chose d'enfance qui était restée toujours très, très opaque et mystérieuse. Quand j'allais à l'école petit, je marchais sur mon trajet, je vais à l'école, et en même temps je me dis que je vais à l'école. Donc en fait on a deux niveaux de pensée dans le cerveau, puis j'ai conscience de ces deux niveaux. Donc ça, j'avais la troisième qui pense les deux autres. Et puis je me demandais combien il y en avait comme ça. Et j'essayais de m'y retrouver. Et puis en même temps, j'étais forcément distrait par les choses de la rue, comportement un peu ridicule d'un passant, la séduction d'une personne, tout ça. Et à chaque fois, je me perdais. Quoi. C'était une forme de petite analyse. Et dans Claude Simon, je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire ça. Voilà. C'est cette espèce de sentiment de, qu'il y a plusieurs niveaux, qu'il y a des simultanéités qui peuvent être anachroniques les unes aux autres, qui sont certaines réflexives, d'autres sensibles, et que tout ça se passe en même temps, et qu'on puisse le dire en même temps dans une même page. Enfin, voilà, ça m'a complètement fasciné. Donc ça, c'était l'espèce de découverte. Alors, pour répondre quand même à votre question, je crois que Simon m'a donné, la lecture de Simon, son œuvre, m'a donné mes appuis pour aborder la littérature d'aujourd'hui. À la fois, ce que j'ai trouvé très vite, et c'est pour ça que j'ai donné ce titre au livre que je lui ai consacré, Une mémoire inquiète, c'est qu'il y avait chez Simon, non pas seulement, on en parlait un peu hier, avant-hier déjà, cette dimension formelle, etc., contestation des formes d'écriture traditionnelles, ouverture à d'autres modalités d'expression, mais qu'il y avait aussi cette mémoire du temps, mais qui n'était pas une mémoire qui était déjà là et qui cherchait à se dire, mais une mémoire qui était toujours instable. Pour ça que je l'ai dit inquiète, parce qu'elle n'est pas reposée dans sa quiétude. C'est pas un art de mémoire, c'est une mémoire qui s'élabore dans le mouvement même du tracé de la phrase, qui se cherche, qui est incertaine d'elle-même, et assez vite je me suis rendu compte que ça c'était quelque chose d'extrêmement partagé par la littérature d'aujourd'hui, enfin celle qui émerge dans les années 80, qui continue de se développer. Et donc voilà, une attention à un phénomène qui permettait peut-être de comprendre quelque chose de notre temps, au moins à travers. Et la deuxième chose, c'est qu'en m'appuyant sur cette expérience de lecture que je rappelais tout à l'heure, ça m'a permis aussi, lorsqu'il s'est agi pour moi, de dire ce que c'était la littérature d'aujourd'hui, et donc m'affronter à ces centaines de livres qui paraissent chaque année, en me disant « mais comment je vais faire ?» Enfin, il y en a trop, et puis on va parler de tout, et je sais bien que j'ai pas envie de parler de tout, mais comment justifier ça? Comment expliquer ça? Le système, cette espèce de distinction que j'ai faite entre trois, j'appelle ça des régimes de littérature, hein, trois régimes de littérature, j'appelle plus consentante, c'est-à-dire qui consent à ce que la société attende des écrivains, c'est-à-dire finalement une sorte de loisir cultivé, hein, avec le romanesque traditionnel, toujours reconduit, un peu comme ces enfants qui ont envie qu'on leur raconte toujours la même histoire. Ça n'identifie pas notre temps, c'est une littérature intemporelle finalement, souvent qui n'est que la pâle copie d'elle-même. Et puis il y a une autre littérature qui est plus agressive, plus commerçante, plus marketing, qui est celle qui essaie de faire du bruit, qui essaie de drainer à elle les pages de magazines, enfin, une littérature qui est symptomatique de notre temps, comme disait Olivier Roland ici même il y a quelques années, mais qui n'est pas diagnostique du temps, qui n'essaie pas de le penser. Et ces deux formes-là sont deux formes qui utilisent le langage véritablement comme un outil, ça sert à s'exprimer. Et puis il y a une troisième forme, et c'est celle de Claude Simon. C'est cette expérience de lecture qui m'a montré, c'est cette littérature que j'ai appelée déconcertante, parce que voilà, elle vous déplace. Quand vous avez fini le livre, vous n'êtes plus la même personne que celle que vous étiez quand vous l'avez ouvert. Et cette littérature-là qui ne conçoit pas la langue comme un outil, mais comme un matériau, justement, qui travaille avec la langue, qui produit du coup quelque chose d'inouï, quelque chose d'inédit, qui ne prend pas le lecteur dans le sens de ses attentes, dans le sens du poil, mais voilà, le déconcerte. Le sort de lui-même, le déplace, l'emmène ailleurs, ça m'a permis d'identifier de quelle littérature il s'agissait de parler, si l'on voulait effectivement essayer d'identifier ce qu'il en est de la littérature d'aujourd'hui. Donc non seulement Simon m'a donné une conscience de ce qui se passe dans la littérature depuis quelques années, depuis quelques décennies, mais il m'a donné aussi les moyens pour l'aborder. Et de tout ça, moi je suis infiniment reconnaissant, et peut-être encore plus de l'exaltation qu'il continue de me porter quand j'en parle.
Jean-Nicole, ça, vous prolongez cette lecture-là de Claude Simon, ce qui vous concerne beaucoup personnellement.
Je fais un bref historique. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai subi l'influence du nouveau roman, et en particulier d'œuvres qui avaient aboli la référence. si je peux me permettre cette formule, Rodrier nous a un temps caché Paul-Simon. Or, la découverte de Simon, ça a été précisément non pas un retour, non pas seulement un retour au monde, mais à un monde foisonnant, à un monde qui réunit, qui ressurgissait, pour ainsi dire, de texte en texte. Et ça, c'est un système d'écho extraordinaire. Et également, puisque on a tout à l'heure parler de rivières souterraines à propos du travail de l'œuvre dans notre peau, je dirais que c'est, à mon avis, c'est une image qui est assez exacte. Et pour moi, c'est l'œuvre elle-même de Claude Simon qui fonctionne comme une rivière souterraine. C'est-à-dire que vous êtes perdu et tout à coup, le thème que vous avez perdu ressurgit. Ça, c'est à mon avis, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui est le plus extraordinaire dans son travail. Alors, j'insisterai également, vous me demandez de m'interroger un petit peu sur les écrivains qui ont été pour moi porteurs et qui m'ont conforté ou donné des leçons pour le travail que j'entreprenais, que je voulais à tout prix mettre en forme, eh bien, c'est précisément la notion de travail. C'est extraordinaire. De même que j'ai vu les débuts difficiles du travail proustien en transcrivant les cahiers de brouillon des premiers volumes de la recherche, qui sont vraiment où on trouve des pages et des pages où la même phrase est répétée, une phrase assez gauche, qui est biffée, reprise avec une petite variante, etc. De la même façon, bien que je n'ai pas lu le même rapport immédiat au manuscrit de Claude Simon, il est clair, ce qu'on en sait montre bien qu'il y a là un travail absolument gigantesque. Donc, l'écrivain, c'est quelqu'un qui construit une forêt, soit pour en sortir, soit pour y prendre ses lecteurs, en faisant en sorte qu'ils se perdent et se retrouvent. Voilà, ça c'est l'image très naturel, pour ainsi dire, que j'ai de l'œuvre de Simon. C'est une image presque. C'est presque visible dans la typographie, c'est presque visible dans la page.
Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous dire un mot de ces manuscrits de Claude Simon, dont certains sont connus parce qu'on reproduit dans certains ouvrages qui lui ont été consacrés. Peut-être amener en montant une idée de ce que c'est, si vous voulez bien me dire peut-être un petit mot.
Vous auriez dû me prévenir, je l'avais dans l'ordinateur, on aurait pu les projeter. Oui, les manuscrits de Simon, et pas seulement ces manuscrits, il y a aussi les lettres, mais ça m'a bien écrit, c'est toujours comme ça. C'est une écriture très fine, très très resserrée sur elle-même, les lignes très très serrées également, qui commencent donc assez naturellement en haut et à gauche de la page, et plus on descend dans la page, plus les lignes se rétrécissent, formant comme une sorte d'entonnoir sur le bord droit de la feuille, et libère une marge de plus en plus grande à gauche. Et cette marge est une marge active. C'est une marge où Claude Simon fait des dessins, souvent. Alors ça peut être des petits croquis, ça peut être des dessins plus élaborés. Dans l'exposition, on en montre quelques-uns. Il y a des têtes de chevaux, il y a des guerriers, il y a parfois un mort de cheval, simplement le mort extrêmement détaillé. C'est, vous voyez, ce sont des dessins à la plume, puisque de toute façon, il dessine en même temps qu'il écrit. C'est à la plume. Parfois, c'est simplement des petits croquis. Et puis, c'est aussi un réservoir de mots. Et ça, c'est extrêmement intéressant. J'en dis quelques mots dans la préface du dictionnaire qui vient de paraître, aux éditions des Classiques Garnier, dictionnaire Claude Simon. Parce que ce qui nous frappe tous, on a tous frappé, on l'a entendu, c'est tout le jour. C'est le phrasé de Simon, hein. C'est cette phrase qui importe, qui n'en finit pas, qui est pleine de digressions, de parenthèses, enfin. Et donc, effectivement, le phrasé est là sur cette partie droite de la feuille, qui s'amoindrit, alors il y a des ratures, il y a des reprises, etc. Mais voilà, c'est quand même une écriture d'une densité folle. Et puis, dans cet espace blanc, sur la gauche, il y a ces mots. Alors pourquoi est-ce que des mots là ? Parce que lorsqu'il écrit, des mots lui viennent. Et donc, il est en train d'écrire, mais des mots lui viennent qui n'ont pas un rapport immédiatement nécessaire avec ce qu'il est en train d'écrire, donc ils ne peuvent pas trouver leur place dans la phrase. Mais ces mots qui lui sont venus, il ne veut pas les perdre, il ne veut pas les abandonner. Donc il les note comme une sorte de réserve, si vous voulez, sur la partie gauche, sachant que ce sont des mots qu'on retrouve dans les pages suivantes, ou dans des fragments suivants. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit là qu'il y a à la fois la démarche d'un prosateur, dans le plus beau geste qui puisse être, et qui a très très bien décrit Jean-Paul Lyard. Mais il y a aussi une démarche de poète. Vous savez, c'est Jacobson qui faisait cette grande différence entre ce qu'il appelle l'écriture syntagmatique, donc l'écriture de la prose, narrative, qui prolonge le récit, et puis l'écriture qu'il appelle paradigmatique, c'est-à-dire qu'il va chercher dans le lexique les jeux de substitution, d'analogie. Et donc, chez Simon, il y a ce double rapport au langage, syntagmatique d'un côté et lexical de l'autre, et on s'aperçoit du coup que dans ce jeu de substitution de la phrase, de ce jeu des analogies, des codes, etc., c'est pour lui une manière de retrouver dans le mouvement de la syntaxe cette richesse du lexique, voyez, et de faire poésie dans la prose. Hein, c'est une autre, je redis autrement ce que tu as très très bien dit hier, en fait, excuse-moi, mais j'ai... Bon, voilà, c'est le talent du pédagogue de répéter. Et voilà, et les manuscrits emblématisent ça de façon tout à fait extraordinaire. Plus cette idée que tout procède d'image, puisqu'il y a les dessins. Hein, voilà. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait fascinant de voir cette disposition-là, parce que on voit le travail à l'œuvre. Et ceux d'entre nous qui ont vu déjà, qui verront l'exposition, auront l'occasion de voir la maîtrise d'un mot des Flandres, on l'a présenté comme ça, pas toutes les pages, parce que c'était trop long, mais un certain nombre de pages que j'avais sélectionnées. Et à partir de ça, Alain Flécheur et l'infographiste de Beaubourg ont fait un travail magnifique, c'est-à-dire qu'ils font apparaître les mots les uns après les autres pour certaines de ces pages, et on retrouve le mouvement de l'écriture. C'est-à-dire que ce qui est donné sur l'espace de la page se déploie dans une temporalité. Et ça, c'est tout à fait frappant parce que ça signifie que si l'infographie s'est arrivée à faire ça, c'est que la temporalité, elle est quand même déjà en épaisseur dans l'espace de la page. Et ça, je trouve ça prodigieux.
Merci de nous avoir donné cet éclairage. Nicole, vous vouliez réagir. La grande rime en vert rouge, on ne pourra pas vous oublier, on ne pourra pas vous laisser. C'est pas vrai, c'est pas dit.
Non, je voulais simplement dire que je suis frappé, c'est très intéressant parce que, au fond, on pourrait dire que là, on pourrait dire que la note d'origine est devenue la nôtre. Là où Proust dit, par exemple, dans les marges, quand je dis ça, ne pas oublier de dire ça. C'est-à-dire, les notes d'origine proustiennes étaient probablement, avant Proust, ça a toujours été des notes d'origine qui ont à voir avec l'organisation du texte. Alors ici, c'est encore une question avec notre manière, mais c'est réduit à un mot. Alors, c'est très intéressant. Je pense que c'est très beau comme ça.
Oui, il y a un peu qui ne fait pas dire.
Non, mais je voulais bien reprendre la parole.
Non, tout à l'heure, j'ai situé de la manière la plus générale la question du rapport avec un écrivain qui a été une force agissante. Mais hier, j'essayais de, dans ma conclusion, en somme, j'essayais d'indiquer que j'avais eu le sentiment, à l'âge où j'ai découvert Claude Simon et je continuais d'écrire, j'ai publié mon premier livre en 77. J'avais le sentiment de solidarité, de participer à une œuvre commune. Bon. Et je voudrais entrer un tout petit peu dans le détail, forcément en faisant allusion à des considérations personnelles. Il me semble que dans l'histoire littéraire, c'est une chose qui était récente, qui était un petit peu, qui est trop méconnue. Entre la fin du formalisme et puis le milieu des années 80, il y a un moment que j'aimerais appeler le moment d'Igraphe. La revue d'Igraphe est une revue qui est créée en 1974 avec un poète, Jean Lista, un écrivain qui est maintenant public, qui est Daniel Salnov, et puis un philosophe, un spécialiste de Descartes, qui s'appelle Denis Combouchère. Ils font un bilan critique dans un éditorial de ce premier numéro des années formalistes, reprochant au formalisme et aux années, c'est-à-dire pas simplement le nouveau roman, mais les années telles quelles, parce que le nouveau roman, son activité théorique, elle est largement terminée après la publication de Pour un nouveau roman d'Andrine. Ce qui est nouveau, c'est tout ce qui se passe aux années 60, lorsque la linguistique vient informer largement, ce que ne fait pas du tout Rodrigue, me semble-t-il. Enfin, j'ai pas lu ça depuis très longtemps. Alors bref, il ne s'agit pas simplement d'en finir avec le nouveau roman, il s'agit d'en finir avec la théorie, avec telle qu'elle, la conjonction de Marx, de Saussure et puis de Lacan. Alors, dans cet éditorial de Digraph, il y a, comme ça, je très précisément en mémoire, mais je me rappelle le souci d'en revenir aux dimensions imaginaires, par exemple, un mot qui est prohibé, de constater la cécité complète de ce moment théorique et formaliste à l'égard de la littérature latino-américaine. Hein, qui est dans son plus bel épanouissement dans les années 60 et 70, etc., etc. Et les écrivains que je lis dans Digraph sont, prenons Daniel Sarnaf, qui a publié en 75 « Paysages de ruines avec personnages », ou bien un tout petit peu plus tard « L'amour ». Non, ça c'est quand il a fini d'intéresser à la littérature qui m'intéresse. Bon. C'est le livre qui mènera ensuite à l'Académie française. Enfin, pour qui a lu les deux premiers livres de Daniel Salnab, je me rappelle très bien une conversation avec mes bons amis, on a eu le sentiment d'une trahison en disant les portes de on revenait à des modèles formels institués. Bon. Le deuxième, donc, c'est Ricochet, je ne sais pas tellement conversation dans le type, excusez-moi. N'importe deux livres de Daniel Salnab, les textes qui paraissaient dans la revue, les gens qui étaient manifestement dans la pré-lecture de Claude Simon et autour d'un thème, c'est-à-dire, je vais faire une petite parenthèse personnelle, mais en 1977, j'ai fait avec un ami, Alain Poisson, un entretien avec Claude Simon, qui a été publié sous le titre de Un homme traversé par le travail. Une des questions que je lui ai posées, qui focalisait bien ce qui m'intéressait dans mon travail d'écrivain et dans ce que j'avais pu retenir de Claude Simon, c'est une question sur la question du lyrisme et de la musique. Et dans ce qui se publiait à Digraph, Jean Vista est un magnifique poète lyrique, Mathieu Bénézet est un poète lyrique. Ce qui m'intéressait, c'était le sentiment qu'il y avait autour de la question du lyrisme un souci commun après le formalisme. Oui, voilà. Un souci commun, participer à une entreprise comme il s'agit de tirer de la période du nouveau roman et de la période telle qu'elle, ce que nous pouvions en tirer. Avec des exigences nouvelles. Bon, je rejoins le petit propos de Proust. On tire le meilleur à partir de ce qu'ils ont donné, et puis après, c'est à nous d'aller plus loin.
Stalag, et
C'était avant qu'ils soient dans le train, c'était aux marchands, comme ça, dans la rue, encadrés par les soldats allemands. Et donc, il dit que, voilà, qu'il était en train de vivre ça, qu'il avait conscience de le vivre, qu'en même temps, il voyait effectivement l'été autour, et cette nature luxuriante, heureuse, quand lui était dans cette situation-là. Et puis, il dit, puis, en même temps, en vivant ça, je revoyais quelque chose de tous les temps. Et il se met à parler de l'exil des Juifs, des mouvements de réfugiés au travers de l'histoire. Et d'un seul coup, cette simultanéité anachronique que j'évoquais tout à l'heure, elle est déjà là dans l'entretien. En fait, c'est un moment que je trouve particulièrement touchant. Et puis, ça débouche sur des réflexions sur Auschwitz, enfin sur la manière dont notre existence est constamment hantée par ces passés-là, comme c'est le cas dans son œuvre. Ça, je trouve vraiment très, très étonnant. Je trouve que c'est l'un des plus bons entretiens, certainement, que Simon ait donné. C'est dans la Nouvelle Critique, allez lire.
J'aurais peut-être qu'on rebondisse, si vous voulez bien, sur ce que disait Dominique Villard tout à l'heure, ce sentiment d'exaltation. Finalement, on a assez peu parlé pendant ces trois jours, mais autour de Simon, il est faussement réputé difficile pour tout un tas de.
Ça, c'est comme une chose qu'on ne comprend pas.
Ouais. Qu'il soit réputé difficile.
Non.
À dire,
comment on peut juger que c'est difficile.
Voilà, exactement. Cette mauvaise réputation, ce truc.
Ça se lit pas selon les modes de lecture de. Je sais pas, j'ai jamais lu, mais de Marquelli, je suppose. Donc, pourquoi serait-ce plus difficile que Faulkner? Pourquoi serait-ce plus difficile que Léval ou que Proust? Enfin, bon, je ne comprends pas. Et quand j'évoquais encore hier l'idée que non pas le roman allait vers un progrès, mais que les lectures antérieures d'écrivains majeurs instaurent des modalités de lecture qui ne sont pas périmables. Bon, une fois qu'il y a eu Proust, on ne peut plus lire les choses de la même manière. Quand il y a eu Faulkner, on ne peut plus lire la littérature de la même manière. Bon. Et ça ne veut pas dire que l'écrivain qui vient après avancera vers la voie royale du progrès. C'est simplement qu'il périme des modes de lecture antérieurs. Et dans cette vie-là, enfin, je veux dire, par conséquent, comment peut-on trouver la lecture de Claude Simon quand on dit difficile, ça veut dire ça fait appel à des fonctionnements abstraits, intellectuels, où le lecteur ne se sent pas engagé, alors que, bon, tout le monde l'a dit hier, bon, ça, c'est un monde parfaitement sensible. En fait, on a l'écart les trois textes des années 70, mais vraiment, c'est magnifiquement lyrique. Alors, bon, le lyrisme, il prend au corps, il prend pas la tête.
Et tout ce sentiment d'exaltation, enfin, je ne sais pas si vous le partagez.
Ben, je...
En tant que lecteur, mais également avec lui. Il y a un vrai plaisir.
J'ai essayé de dire que cette émotion-là, qu'on peut éprouver, vous appelez exaltation, très bien, à condition qu'on ne la prenne pas pour une sensation d'ordre psychologique. J'aimerais beaucoup, j'avais insisté sur ce mot d'esthétique, qui est une qualité de. L'impression qui est, en termes de psychologie, particulièrement difficile à expliquer, à nommer, mais prenons une métaphore, mais quand dans un roman on dit qu'il fait froid, on n'a pas froid. Quand il dit l'autre, le chien ne mord pas. Donc, il y a un texte qui émeut ne vous met pas dans le même état qu'une émotion psychologique. Cette émotion-là, on l'appelle esthétique. Alors elle est très complexe à définir, elle est difficile d'en faire. Les lignes de démarcation avec une émotion purement physique. Il est rare, par exemple, qu'on ait la chair de poule en lisant un texte, comme on peut l'avoir en écoutant la deuxième partie d'Alpac, par exemple, je ne sais pas. Bon. Mais il y a quelque chose qui est en même temps physique, mais qui n'est pas de même ordre que quand on voit un film d'horreur. Exaltation esthétique.
Une émotion esthétique. Tel qu'on va le dire, Jean-Nicole, vous êtes d'accord?
Oui, oui, tout à fait. Ouais, je voudrais quand même dire que sur le problème de la difficulté, entre guillemets, de Simon, il faut quand même dire que, en général, il faut d'abord lire tout une première fois pour reprendre le texte. La route des Flandres, on ne demande pas reprendre avant d'arriver à la fin. Donc, c'est quand même une modalité un petit peu qui complexifie un petit peu. Non. Il a désarçonné nos habitudes de lecture par la manipulation ou le renversement de ce qu'on appelle la force, c'est-à-dire vous êtes supposé d'abord dire de quoi vous parlez avant de préciser, par exemple, un personnage. Donc, il tenait une lettre à la main. Oui, non, elle marche très bien. Il faut simplement, il faut aller plus loin. Voilà, il faut prendre, et c'est effectivement tout le dynamisme de l'écriture de Simon, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est constamment en mouvement. Le lecteur est en mouvement dans le texte. Le texte est lui-même en mouvement, et il y a de temps en temps, et puis de temps en temps, il y a donc ces fameux points de clignotant où tout à coup, on comprend, on est perdu et on se repère. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'image de la Hagia Sophia, l'image qui rapprocherait Simon de Char, ce qui est évidemment peut-être pas tout à fait ce qu'on voudrait dire, mais j'ai l'image d'une forêt, presque médiévale, peut-être, je pourrais dire. Et cette forêt, c'est la forêt de Macbeth, hein, qui est en mouvement, une forêt en mouvement. Et le lecteur est à la fois fixe et mouvant lui-même. Voilà, je pense que c'est cette nouvelle dimension qu'il a introduite dans la page. J'ai dit tout à l'heure la graphie. On se promène dans une forêt de signes.
Il me semble que ce qui se passe en fait, c'est que Simon nous rend sensibles à ce à quoi nous sommes sensibles. C'est pour ça qu'il y a ce phénomène d'exaltation, ce sentiment d'être enrichi, grandi quand je lis Simon. Et ça participe justement de ce que tu appelles la cataphore, c'est-à-dire le fait de donner d'abord, on va être un peu cuistre, un peu les prédicats avant le thème, c'est-à-dire donner les qualités d'un objet, d'une expérience, avant de nommer cette expérience. Et d'ailleurs, assez souvent, Simon ne la nomme même pas. C'est déjà la critique que Sarraute adressait à Balzac. À un moment où on dit que Goriot est un que Grandet est un avare, que Goriot est crise de la paternité, du coup, tout ce qu'on peut en dire après ne sera qu'une déclinaison de cette étiquette dans lequel le personnage est enclos, enfermé. Alors que chez Simon, on a d'abord effectivement un certain nombre de gestes, de sensations, de perceptions, et ça dessine une figure qui demeure toujours un peu floue. Et donc il y a là un travail qu'on pourrait appeler une sorte de désappropriation du propre, c'est-à-dire désappropriation du mot qui est censé désigner une chose. Il décolle le mot de la chose pour arriver à la qualité sensible de la chose. Et c'est par cette désappropriation du mot propre qu'il se réapproprie le sensible qui est souvent recouvert par le langage. Donc il y a là, je crois, tout un travail extrêmement subtil qui du coup nous rend disponibles à nos sensations parce qu'elles ne sont plus indexées par ce qui les identifie, les classe, les définit, les nomme, enfin les circonscrit et donc les amoindrit. Et cette lecture-là, moi, je suis tout à fait convaincu par ce que disait Jean-Paul à l'instant, c'est ce qui nous permet de lire aussi, je sais pas, les premiers romans d'Albert Gounod, par exemple. Vous avez des pages et des pages sur la lumière qui est sur la maison rose, sur la sensation de chaleur qui est dans la main de l'enfant, avant de comprendre qu'il est devant une maison du Quercy avec un oiseau mort dans la main. Et cette sensation, du coup, elle devient perceptible, beaucoup plus évidemment au lecteur que si ça passait par la direction du lexique, en fait.
Et tout ce que tu dis là est parfaitement juste, mais tout lecteur de Proust le sait déjà. Hein, la lecture que le narrateur fait de la peinture d'Elstir, c'est précisément de montrer le monde sensible et non pas le monde d'abord intelligible. Hein, non pas la mer, mais ce qui se présente à soi comme un mur d'abord, par exemple. Si on a lu Proust, on n'est pas déboussolé par ni une cataphore, ni ce que Proust, hein, je le rappelais hier, appelle le côté de Dostoïevski, Madame de Sévigné, c'est-à-dire le monde sensible avant d'être le monde intelligible. Tout ça ne devrait pas poser des obstacles de lecture considérables. Je ne dis pas que c'est une lecture facile qui se lit dans la transparence et la clarté immédiate, mais je dis que ça ne crée pas des obstacles finis, ça déplace des modalités de lecture, ça les... On n'est pas devant. C'est pas pareil d'ailleurs.
Mais Spinoza. Vous écoutez, je reprends ça à cet exemple que Claude Simon donne lui-même, c'est récurrent, puisqu'il en parle à plusieurs reprises, pour expliquer un petit peu comment fonctionne, comment travaille sur la page, ce que Dominique Villard a décrit tout à l'heure, ce qui se passe sur la page, où il y a des mots qui s'accumulent, etc. C'est l'histoire du papier de Gauloise. Alors on l'a vu en partie dans le film samedi soir de Brugger, parle de ce paquet de Gauloise, où il explique que voilà, ce paquet est rectangulaire et que rectangle appelle éveille chez le lecteur d'autres formes rectangulaires que celle du paquet de Gauloise, qu'il est bleu et que la couleur du bleu représente la mer, le ciel, etc. Les ailes du casque, les oiseaux, etc. etc. Et comme ça, comment à partir d'un objet très trivial finalement, qui est simple paquet de Gauloise, il arrive petit à petit à construire quelque chose qui va être dans la phrase et qui va être qui va grandir ce paquet de Gauloise pour en faire plus que ce qu'il y a en réalité, dans la réalité. Et il y a un autre moment où il reparle de ce paquet de Gauloise, c'est l'extrait, vous pouvez le trouver sur le site de l'INA, c'est un extrait du film où il y a cette conversation avec Robert. Et qui d'ailleurs est assez dur à un moment donné, parce qu'il y a aussi une vraie confrontation, mais on ne pourrait pas dire qu'il y a quand même une forme d'opposition entre Romer et Claude Simon, mais où là, il est assis à ça, dans son salon, et où il reprend ce paquet de Gauloise, il dit à Romer, regardez-moi. Et donc il y a cette confrontation toujours, ça me fait penser à ça complètement. Cette exaltation, elle est dans cette écriture même, parce que lui-même, on le sent, est quelqu'un qui s'exalte de ce qui se passe au moment où il écrit, sur la page de vie aussi. Hein,
il y a une circulation infinie, c'est-à-dire vous prenez un verre d'eau, évidemment, vous le voyez au cosmos. Tout à l'heure, quand on parlait du paquet de Gauloise, je me disais, au fond, cette ponge a exactement fait ça. C'est-à-dire que un mot n'a pas un sens, mais il communique avec l'infini. Mais je voudrais ajouter quand même que c'est vrai, mais en même temps, il y a chez Simon un certain nombre de thèmes spécifiques qui reviennent, d'ailleurs ça c'est un des aspects, je pense, très importants, parce que ce sentiment de joie, d'emportement que l'on ressent chez lui, il vient aussi du fait que nous retrouvons plus ou moins les mêmes choses de livre en livre. Ça c'est très important aussi. Autrement dit, l'ensemble de l'œuvre est construit à la manière même de chacun des livres, où nous nous perdons et nous nous retrouvons, et il y a une certaine familiarité qui se construit entre le lecteur et ses différents personnages, qui n'ont pas toujours les mêmes noms, mais que nous connaissons par certains attributs, etc. Donc c'est un monde qui est le monde, mais qui est un monde spécifique. Je parlais l'autre jour à quelqu'un. Une chose me frappe, je suis là un petit peu obsédé par ces questions, il y a peu de noms propres chez Simon. Et donc, on est en France, je veux dire, on est dans le sud de la France, en gros, c'est pas très bien. Donc, ça aussi, ça participe de cette certaine universalité, on ne sait pas où on est, c'est pas vraiment où on est. Alors, moi, ça m'a beaucoup intéressé ces questions, parce que dans les travaux que moi j'ai faits, il me fallait absolument nommer immédiatement mon lieu. Et je ne pouvais pas le faire moi-même. Il a fallu que ce soit un étranger, en l'occurrence Hilbert, qui nomme. Donc, on peut être intéressé, on peut être fasciné par un auteur, parce que précisément, il présente presque une forme inversée des priorités qui sont les vôtres.
Je vais vous poser une question. Oui, justement, sur cette question de l'universalité, mais j'ai eu une expérience qui m'a vraiment frappé, qui m'a fait relire comme si bon autrement. J'ai eu un étudiant irakien qui est venu à Lille pour faire une thèse avec moi sur. Alors, il voulait comparer Claude Simon et un auteur arabe au début, c'était Mahfouz. Et puis, bon, je ne connais pas grand-chose de Mahfouz, donc je me dis que ce n'était pas vraiment le directeur qu'il lui fallait. Et puis que Claude Simon, c'était déjà compliqué, et surtout pour cet Iranien qui avait un peu du mal au début avec la langue française. Et donc, il s'y est mis, et il s'est mis finalement uniquement à Claude Simon. Et alors là, j'ai d'un seul coup découvert comment Claude Simon était en fait profondément français. Par l'incompréhension même d'un certain nombre de choses qui pour nous sont évidentes, qui passent comme ça de manière allusive parfois sur des rituels sociaux, sur des modes de sociabilité, sur des pratiques, sur des manières de faire les choses. L'œuvre de Simon est complètement habitée par ça. Et il y a un humus extraordinairement profond qui s'enracine dans des pratiques de terroir, des pratiques de famille, des modèles qui forment la matière essentielle même du tramway à la fin. Hein, et ça, je crois que je ne l'ai mesuré que par ce détour, parce que je suis moi-même, comme chacun d'entre nous, j'imagine, enfin du moins un certain nombre dans cette salle, habité par les mêmes pratiques. Or, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est justement ça qui le rend universel. C'est ces mêmes choses que pour Faulkner, enfin, le comté de Yocnapatapa, ou pour Juan Bennett et Rillon. C'est qu'on est vraiment là, à partir du moment où on s'enracine, on s'universalise. Et ça, c'est quelque chose que nous révèle, je crois, beaucoup, hein, l'œuvre de Simon. Et puis, l'autre petite chose sur laquelle je veux revenir, c'est à propos du paquet de Gaulois, c'est sur le casque aîné, etc. Dans notre conversation qu'on a eue ensuite au café, après les interventions des uns et des autres, quelqu'un chez Pupi s'étonnait du rapprochement que Jean-Paul avait pu faire entre Gracq et Simon. Et on a reparlé un peu aussi tous deux sur la question de la rêverie, par exemple. La rêverie est un motif qu'on associe assez volontiers à Gracq, mais finalement il y a une rêverie chez Simon. Partir de ce paquet gauloise, du casquelé, de tout ce que ça peut suggérer, faire venir à l'esprit, c'est une forme de rêverie. Sauf que la rêverie chez Simon, elle est peut-être un peu particulière parce que. C'est vrai qu'elle a trois dimensions qui viennent s'y greffer. Il y a une dimension linguistique, hein, le lexique, le verbe, il y a un appel du verbe, du mot, c'est cette fameuse réflexion sur les carrefours de sens, etc., la notification, la coque, bon, cette dimension-là, le côté lacanien de Simon, c'est plus le côté de Dostoïevski, même, c'est évident. Donc il y a la rêverie est autant sur le langage, c'est aussi le côté pongien, hein, que sur l'objet ou l'image. Deuxième chose, cette rêverie, elle est infiniment disponible, mais comme le disait Jean-Nicole à l'instant, elle est comme gouvernée en même temps, et elle est de deux façons gouvernée. Elle est gouvernée par cette réflexion que la langue fait sur ce enfin, oui, que l'écrivain, en tant qu'il est producteur de verbes, fait sur ce qu'il est en train d'écrire. Et donc cet élan de la phrase est à la fois poétique, mais aussi métalinguistique, peut-être, hein, réflexion sur ce qu'il se dit, sur ce qu'il fait. Et puis, deuxième phénomène, c'est ce phénomène du ressassement ou de l'obsessionnel, c'est-à-dire qu'il y a des motifs, c'est-à-dire que la rêverie ne part pas n'importe où. Elle revient sur ces points que Jean-Nicole soulignait avec justesse tout à l'heure, qui font retour de livre en livre. Hein. Un peu peut-être, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très loin de la psychanalyse, un peu comme la parole libre de l'analysant repasse par les mêmes points. Et on dit souvent, en commentant les fameux dessins, les brouillons et les pelotes de Simon, qu'il y a cette espèce d'errance, etc. Mais il dit aussi, le narrateur perdu dans sa forêt d'image, qui repasse par les mêmes points. Voilà, même la figure du trèfle, hein, qui est effectivement centrale dans l'œuvre.
Non. J'aime peut-être dire un petit mot de passage, peut-être qui est la conclusion. Hein.
Redire ce que j'ai dit, enfin, je maintiens cette impression que j'ai d'un foisonnement qui est un foisonnement, mais une forêt qui serait le vent, qui serait. serait en gestation, si bien sûr, car nous suivons le mouvement de l'écriture. C'est ça qui est très nouveau chez nous, je pense. Alors on appelle ça les anorthoses, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi une façon de mettre ensemble, je dirais pas seulement les signes, mais les références, parce que ce qui est très important, nous sommes à la fois dans un système de signes, mais nous sommes toujours dans le concret, nous sommes toujours dans le réel, que ce réel soit une espèce de réalité du fonctionnement de la pensée, ou que ce soit une projection de ce qu'on voit et de ce qu'on sent. Mais enfin, c'est un écrivain, c'est un écrivain de la matière, c'est un écrivain du vent, c'est un écrivain de l'impossibilité de décrire le monde aussi.
Oui, tout à fait. Et à travers des images, parce que l'image est très présente, on en a parlé, et donc on peut souffler à juste titre, on peut dire peut-être un petit mot aussi, des photographies de Claude Simon qui rentrent bien en résonance avec ce qu'il vient de dire, parce que vous savez qu'il a aussi pratiqué la photographie comme un vrai travail, comme il faisait toujours. Hein, quand il faisait, c'était toujours un travail. Et donc ces photographies qui aussi font écho à cette exigence d'écriture, vous voulez dire
que je vais simplement tout à coup, je me dis que c'est très intéressant de noter que les surréalistes avaient remplacé les descriptions par les photographies. Or, Simon s'intéresse à la fois aux photographies, mais il a transformé la description en description d'une amie. Donc il y a quelque chose. Il a fait une double version.
Oui, sur les photos, je crois qu'il faut insister un peu, parce que je pense que c'est une partie qu'on connaît encore moins, pour dire que Simon est assez connu parce que cette réputation, etc., qui fait obstacle, mais les photographies sont encore moins connues quand même. Et on avait eu d'ailleurs l'occasion, il y a une quinzaine d'années, de les voir exposer ici même. Et ça fonctionne. Alors, d'abord, première chose à dire, je crois que ce sont des photographies de photographes. Ce n'est pas des photographies d'un écrivain qui fait des photos. Hein. Ça, c'est important. C'est un vrai photographe, à tel point que. Là, il y a une exposition de photographies de Simon en même temps à Beaubourg et dans le musée, dans une autre partie. Il y a quelques photos aussi dans l'exposition de Simon écrivain. Mais cette exposition, nous avons failli la faire avec Alain Fletcher à la Maison européenne de la photographie, c'est-à-dire un lieu qui consacre aussi des photographes reconnus comme tels. Et elles sont en écho avec un certain nombre de travaux de photographes de son époque. Il était lui-même d'ailleurs très impressionné par ce qu'on appelle la chronophotographie. Vous savez, le travail de Muybridge, par exemple, qui décompose un mouvement, et quand on lit ces phrases avec ses participes présents, on est dans une sorte d'équivalent verbal de la chronophotographie. Hein. Et une troisième chose que je voudrais dire, c'est que on retrouve dans les photographies les mêmes phénomènes que dans l'écriture, et notamment. Cette espèce de superposition de plusieurs niveaux. Il y a eu ce passage magnifique qui a été lu par Serge Hanco avant-hier, où le fait d'être dans la relation amoureuse avec cette femme, on ne sait pas bien si c'est une prostituée, si c'est Corinne dans la Route des Flandres, fait qu'au contact de son pubis, on a la sensation qu'il revient du contact de l'herbe alors qu'on essaie d'échapper à la mort, et donc d'un seul coup, les sensations voilà, de palettes différentes. Montre qu'il y a aussi une mémoire du corps, enfin pas mal de choses qui sont déjà reprises chez Proust, mais qui prennent un peu encore plus fort là peut-être. Bon, bien ça, cette espèce de superposition-là, on l'a dans les photographies. Il y a des photographies, par exemple, alors celle qu'on a choisie pour la couverture des Cahiers Simon, c'est un mur qui a été photographié pas très loin d'ici, vers Sals, avec des pierres qui sont alternativement en oblique vers la gauche ou en oblique vers la droite, et il a appelé ça page d'écriture. Il y a une autre photographie qui est magnifique aussi dans son recueil photographique publié chez Mag. C'est un arbre qui se divise, le tronc se divise en deux parties, et il appelle ça cuisse de femme ou jambe de femme, je ne sais plus exactement. Mais effectivement, d'un seul coup, quand on le voit, on a l'impression de voir un corps de femme à l'envers, enfin, y compris que le renflement du pubis entre les deux parties du tronc qui se séparent. Il y a des photographies de gitans, très belles photographies de gitans. Une femme, donc une gitane avec son enfant dans les bras, il appelle ça la Sainte Famille. Et d'un seul coup, on voit que ce sont les gitans qui prennent sur eux-mêmes, finalement, tout cet imaginaire religieux. Et puis, à l'inverse, les photographies d'église, avec des légendes qui sont, elles, tout à fait païennes, je dirais. Donc, on voit que les mondes sont complètement en superposition, y compris dans l'image, y compris dans une seule image. C'est-à-dire une seule image, déjà, nous dit une quantité de choses, exactement comme un mot, en fait, peut nous en dire beaucoup.
Merci d'avoir répondu. Peut-être que ça sera la conclusion de cette table ronde. Je vous remercie, Jean-Paul Gault, Eugénie Cole et Dominique Viade, de s'être prêté au jeu. Peut-être juste un petit mot de conclusion sur ce qui a été dit, déjà écrit, sur la disponibilité de Claude Simon. C'est quelqu'un qui sera disponible à l'écriture, donc qui attend du lecteur qu'il soit disponible à la lecture de ses livres, et surtout ce que je voudrais peut-être dire, sûrement que vous ne me contredirez pas, mais comme vous avez le droit de me contredire, c'est, je trouve que c'est une grande leçon, Claude Simon, parce qu'il rend un roman possible après lui. Au lieu d'être dans la fermeture, au lieu d'être dans... Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'ouvert et qui rend quelque chose possible après lui, et bon, tout ça, très simplement, ça veut dire dans des mots un peu. Moi, je trouve que ça, c'est une très grande leçon d'humanité, et qui nous donne, dans les temps d'aujourd'hui, une grande leçon d'humanité. Peut-être, restez là.